Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre, avec Simon Parent.
Bon mardi tout le monde, c'est le début d'une nouvelle saison d'À nous la terre aujourd'hui et on vous annonce en commençant une restructuration, disons une nouvelle formule qui se veut plus ouverte ou plus collaborative. L'objectif étant de faire de cette radio une radio camarade, une radio pour les luttes, une radio pour laquelle on peut se renseigner, évoluer ensemble et renforcer les luttes territoriales qui ont lieu un peu partout, à la fois sur le territoire de Québec, mais ailleurs dans le monde. Et pour ce faire, on va co-animer cette émission, cette saison-ci avec TP, donc, qui est en studio déjà aujourd'hui avec nous.
Salut Simon, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être en studio avec toi et de partager cet échange.
Vraiment heureux qu'on fasse ce projet ensemble et en espérant que vous allez embarquer avec nous et que ça va être une belle, disons, une belle aventure, tout ça. Et déjà, on commence aujourd'hui l'émission, la première saison, avec une rencontre collective. Donc, on ouvre le bal en grand avec 8 invités. On va parler aujourd'hui donc de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent, des agrandissements portuaires qui ont lieu un peu partout tout le long de la vallée du Saint-Laurent et des zones d'innovation et évidemment des réseaux de résistance qui se mettent en place face à ces projets voués à une économie mortifère. Vous écoutez À nous la terre. Ces dernières années, on a vu plusieurs projets industrialo-portuaires visant à renforcer l'exploitation des ressources et le transport international des marchandises en passant par le fleuve Saint-Laurent. On peut penser à GNL Québec au Saguenay ou encore aux agrandissements portuaires de Québec, Contrecoeur et Montréal. Pour en ajouter, le 17 juin dernier, le gouvernement provincial dévoilait sa vision maritime Avantage Saint-Laurent qui prévoit 1 milliard de dollars pour la croissance du transport des marchandises sur le fleuve et l'intégration des activités portuaires dans un réseau logistique dit « intelligent ». Ainsi, la CAQ choisit ouvertement de renforcer les infrastructures d'une économie mondialisée au détriment du fleuve et de l'ensemble des communautés qui le longent et l'habitent. Dans ce contexte, on comprend que pour les défenseurs de l'économie marchande, le fleuve Saint-Laurent n'est rien d'autre qu'une vulgaire autoroute vouée au transport des marchandises et à la croissance éternelle du profit. On saisit mieux cet état d'esprit en lisant quelques lignes écrites par Legault en 2012 dans son livre intitulé « Cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent ». Donc je vous lis un petit passage qui va comme suit. La vallée du Saint-Laurent doit être le point de départ d'une nouvelle conquête, non plus à l'échelle d'un continent, mais de la planète. Mon rêve, c'est de faire de la vallée du Saint-Laurent une vallée de l'innovation, un endroit où l'imagination et la créativité deviendront le moteur de notre relance économique. Fin de la citation. Et donc, au moment où se multiplient les catastrophes écologiques, Legault rêve de transformer la vallée du Saint-Laurent en une Silicon Valley inspirée par la Californie et d'en faire un Eldorado pour les entreprises privées de haute technologie. En 2020, 8 ans après l'écriture de son livre, il annonçait la création de 23 zones d'innovation tout le long de la vallée du Saint-Laurent, des parcs techno-industriels regroupant des entreprises de haute technologie et des groupes de recherche universitaires liés à la collecte de données, au déploiement de l'intelligence artificielle, à l'implantation de dispositifs de surveillance et à la logistique dite « intelligente » du transport des marchandises. Son rêve devient donc réalité. Le Québec se transforme en une Silicon Valley. C'est donc une mutation à la fois sociale et territoriale qui s'organise à l'ombre des projecteurs, sous l'écran de fumée médiatique occasionné depuis 2 ans par la pandémie. Pourtant, malgré une absence quasi totale de débat public, des groupes de résistance s'organisent un peu partout sur les territoires pour affronter ces transformations, empêcher les agrandissements portuaires et protéger le littoral contre ces invasions impériales. Le 22 juin 2021, on pouvait lire dans la presse une lettre ouverte co-signée par 8 groupes qui annonçait la formation d'un corridor de solidarité tout le long du fleuve. Et je lis un passage qui se veut la conclusion de cette lettre. Ainsi donc, à tous les endroits, on retrouve les mêmes dynamiques destructrices, le même mépris envers les habitants et habitantes des alentours et les espèces animales menacées. C'est une économie de la mort qui s'oppose à l'existence des communautés du vivant. Nous ne pouvons pas laisser le fleuve et le fjord être transformés en autoroute à bateaux pour le profit et sans égard pour le vivant. Dorénavant, nous avancerons ensemble pour toutes les autres possibilités que peut porter le littoral. Que celles et ceux qui ne veulent pas regarder en toute impunité la destruction du fleuve nous rejoignent. Et voilà, nous sommes aujourd'hui avec quelques membres de ces groupes pour discuter des menaces qui planent sur les territoires et du réseau de résistance qui s'organise pour y faire face. Et on va donc laisser TP nous présenter les différents groupes et peut-être poser la première question qui leur sera lancée.
Oui, merci Simon pour cette très très belle introduction. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette lettre qui s'appelait « Un fleuve en commun » publiée dans la presse, Daniel Gay d'Accès Saint-Laurent-Beauport, Lauriane Dansereau de la Vigie citoyenne du port de Contrecoeur, Marie-Hélène Déhay de la Table citoyenne Littoral S, Simon du groupe Le Terrain Vague n'est à personne, Joris Maillochon de Mobilisation 6600 et un contributeur du groupe L'Asile contre l'Asile à Québec. Donc c'est avec toutes ces personnes-là qu'on va partager la discussion aujourd'hui. Peut-être pour ouvrir un peu, je voudrais vous entendre sur les projets contre lesquels vous vous mobilisez, qui les mène, qui sont les parties impliquées. Puis ça serait quoi les conséquences de leur implantation sur les territoires, sur les communautés locales, aux endroits où vous vivez? Donc je lance la parole à qui veut bien la prendre.
Est-ce que quelqu'un veut briser? Daniel.
Oui, bonjour. Alors merci de l'occasion que vous nous offrez pour parler de notre vision, des projets qui sont concurrents à notre vision citoyenne. Alors, pour commencer, justement, Saint-Laurent-Beauport est impliqué déjà depuis longtemps dans la menace portuaire qui est l'agrandissement du port de Québec du côté de la péninsule de Beauport. C'est des vieux projets qui datent des années 70, où à l'époque, le port avait une vision là, pour remplir les bâtures de Beauport, là, pour en faire des nouvelles zones industrielles et portuaires. Cette vision-là, à date de longtemps. La voie ferrée qui va à Saint-Anne-de-Beaupré à Beauport, on avait rempli les bâtures de Beauport. On a rempli les bâtures de Beauport aussi pour le boulevard Saint-Anne. On a rempli les bâtures de Beauport pour l'usine La Papetière qui a l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Et enfin, le plus célèbre projet là, contesté par les citoyens et les oiseaux là, c'était l'autoroute du Frein-Montmorency dans les années 70. Alors, déjà, à cette époque-là, on s'était dit, arrêtons de détruire la nature et de remplir les bâtures de Beauport pour justement contribuer à cette vision du développement économique à tout prix. Et actuellement, ben, justement, on constate avec la vision Avantage Saint-Laurent du gouvernement Legault qu'on poursuit dans la même direction, alors que justement, on a des visions citoyennes qui sont alternatives. Alors, le constat et l'introduction là, est bien triste. Mais c'est pour ça qu'Accès Saint-Laurent-Beauport et les membres là, qui le constituent, ben, on défend là, une vision pour un plus beau fleuve, le rétablissement de la nature des bâtures de Beauport et des berges qui sont embellies aussi, en harmonie avec les quartiers avoisinants là, que sont le littoral de Mézeray.
Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir présenté Accès Saint-Laurent-Beauport. Joris va prendre la parole pour nous présenter Mobilisation 6600.
Oui, ben merci pour l'occasion. Mobilisation 6600, c'est dans Montréal, précisément dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, Hochelaga-Maisonneuve, quartier résidentiel, anciennement très industriel, qu'on subit encore les impacts aujourd'hui. Donc, Montréal-Est, tout le développement des pétrolières, puis les berges complètement inaccessibles par la présence du port de Montréal. Et donc, la présence du port de Montréal influence beaucoup la grande présence industrielle dans nos quartiers. Puis c'est en 2016 que la mobilisation C1600 a commencé à prendre forme. Dans le fond, il y a Raymond Logistique, un gros joueur de la logistique internationale et du transport de marchandises via des conteneurs, qui a acheté un énorme terrain en plein cœur du quartier, un terrain qui était abandonné, puis déjà réapproprié à la fois par la nature et par les résidents pour un usage social alternatif, puis d'accès à la nature. Puis la mobilisation grandit depuis 2016, donc c'est vraiment parti d'une volonté de comprendre c'était quoi qui arrivait au milieu du quartier, c'était qui Raymond Logistique, qu'est-ce qu'il faisait comme activité. Demande de consultation citoyenne, la démarche pour avoir pour faire le droit d'initiative. Donc ça a permis d'avoir une consultation large mise en place par la ville de Montréal sur l'enjeu. Et c'est là qu'on s'est sur l'enjeu Raymond Logistique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste Raymond Logistique, mais que c'était vraiment toute une zone éco-industrielle qui a été joliment renommée éco-parc industriel, mais qui n'a pas grand-chose d'éco, qui est surtout industriel pour le moment. Et donc, là, la mobilisation, depuis 5 ans, soulève beaucoup de leviers, tant institutionnels que politiques, via des consultations, via des rencontres avec des politiciens. Puis là, en ce moment, il y a un bon timing politique, fait que Raymond Logistique fait beaucoup face à une couverture journalistique. Puis, comment ça rentre dans la stratégie maritime du Saint-Laurent? C'est exactement le transport de marchandises, comment réussir à mettre dans des quartiers résidentiels, historiquement industriels, mais maintenant résidentiels, le transbordement de marchandises industrielles vouées à une économie mondiale qui répond à aucun besoin du quartier, aucun besoin des résidents, aucun besoin, aucune réponse aux défis environnementaux. Donc, mobilisation 6600, c'est ça, c'est réussir à avoir une sorte de justice environnementale, le droit au quartier, le droit à l'environnement sain, au cœur de Schlager-Maisonneuve dans Montréal. Et tout ça s'imbrique dans la vision plus large du transport maritime qui partirait de Montréal.
Merci, Joris. On va revenir aux moyens après ça d'action là, pour voir comment s'organiser par rapport à ça. Est-ce que Marilyn, à Québec, tu voudrais nous faire un survol de la table citoyenne?
Oui, on va faire un aller-retour. Vous m'entendez bien, oui. Donc, merci pour l'invitation. Alors, la table citoyenne littoral-est, on est un peu plus récent comme collectif. C'est en 2019, là, on a eu des nouvelles, en fait, à travers les bribes de la mise en place d'une zone d'innovation dans notre quartier. En fait, c'est le quartier Mézeray à Québec. Mais ça touche aussi le quartier Vieux-Limoilou qui est à côté et Vieux-Moulin qui est dans Beauport. Donc, tous les quartiers du littoral. On a eu l'annonce qu'il y avait un projet de zone d'innovation dans nos quartiers. Et concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, pour Mézeray, cette zone d'innovation-là, c'est que 15 terrains publics qui appartiennent en fait à la ville de Québec vont être vendus au privé pour y installer des entreprises techno-industrielles. Donc, pour nous, c'était inconcevable comme projet parce que ces terrains-là, en fait, devraient servir aux besoins des citoyens et des citoyennes. On est un quartier à faible revenu. On est un quartier aussi où le taux de polluants, là, de contaminants dans l'air est déjà très élevé. On a l'incinérateur, on a une papetière, etc. Donc, on a besoin de terrains pour développer une biodiversité dans le quartier, assainir l'air, répondre aux besoins des citoyens, du logement social, du logement abordable. Donc, pour nous, c'est inconcevable que ce projet-là se réalise et tout le processus aussi là, dans lequel ça s'est fait, c'est-à-dire sans que la population puisse participer à des discussions, nous semble aussi complètement inconcevable.
On voit donc déjà des similarités, là, le mépris de la mobilisation citoyenne, le mépris des populations locales et finalement l'économie marchande qui passe avant toute chose. Lauriane, est-ce que tu voudrais nous parler des enjeux à contre-cœur?
Oui, bien sûr. Merci encore aussi pour l'invitation. Le port de contre-cœur, c'est un projet qui semble être prévu depuis plus de 30 ans par l'achat de terrain à contre-cœur. Sauf qu'on a trouvé que la population avait été peu mise au courant, peu de médiatisation sur les enjeux concernés par le projet. Donc, notre mobilisation est quand même assez récente. Suite à la première version provisoire de l'agence, on a créé un groupe à l'automne dernier, en 2020, pour questionner les enjeux, puis essayer de justement mobiliser les citoyennes contre le cœur. Et en fait, on a réalisé, en questionnant la chose, puis en s'informant qu'il y avait des impacts assez considérables sur notre milieu. Donc, c'est énormément de rives qui vont être détruites par le projet, des sédiments contaminés qui vont être dans le fleuve, donc des impacts assez considérables sur la faune aviaire, la faune aquatique. Donc, tout ça nous a permis de justement faire une médiatisation un peu plus des enjeux qui étaient négatifs, puis de re-questionner le projet. Donc, on a comme passé l'année justement à vouloir dénoncer puis mobiliser. Donc là, en ce moment, on attend de voir où ça va mener tout ça, mais c'est assez récent, comme je disais, comme mobilisation. Puis le lien avec la stratégie maritime, en fait, c'est que Contrecoeur, ben, le port de Contrecoeur s'inscrit dans l'un des deux pôles logistiques qui ont été désignés lors du lancement de la stratégie maritime pour l'établissement d'une plateforme en transport des marchandises, donc sur la rive sud de Montréal. C'est ça un peu le lien avec les autres projets, là, je dirais.
Merci. Et Simon, est-ce que tu voudrais nous faire un survol de qu'est-ce qui se joue finalement au terrain vague? Même si
peut-être pour rajouter un peu, compléter là, ce que Joris a dit, puis peut-être ajouter, parce que là, on m'a présenté comme faisant partie de le terrain vague n'est à personne, puis à moins que je me trompe, je pense pas que ça soit un groupe exactement. Du moins c'est une page Facebook. Je vous invite à la suivre d'ailleurs pour suivre ça peut-être. Puis mais ceci étant, c'est une philosophie du moins dont je me réclame, et je pense qu'on est plusieurs à se réclamer. Puis peut-être pour faire un peu un historique de ce qui s'est passé pour beaucoup un peu subjectivement dans les dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un lieu qui était fréquenté par des centaines, des milliers de personnes. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être même de manière un peu désinvolte et aléatoire, c'est-à-dire des gens qui promènent leurs chiens, qui font des feux, qui font des fêtes, qui se rencontrent, qui regardent les oiseaux. Puis, face à la menace là, de la destruction de ce lieu-là dont j'aurais ça parlé, on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement un espace qui pouvait être... qu'on voulait gérer tout le monde ensemble en commun, parce qu'on avait des usages différents, mais c'était un espace qui un peu, en fait, finalement appartenait à personne, puis par le fait même qu'il appartenait à personne, il appartenait à tout le monde, puis il rendait possible ces différents usages. Puis c'était à partir de ça, de cette volonté-là qu'il nous a apparu la nécessité de le défendre là. Donc c'est pour notre part, c'est pour ça qu'on revendique un peu cette philosophie du terrain vague n'est à personne. Puis c'est une idée qui a fait son bout de chemin tranquillement dans Mob 6600 aussi, puis qui est évidemment toujours en réflexion, en questionnement, puis en débat là.
Et donc pour vous, l'idée d'un parc nature à la place des installations de Raymond Logistique, qu'est-ce que ça vous dit?
J'imagine que je risque pour en dire un peu plus sur l'idée de parc nature. Ça, c'est une revendication qui était à la base de Mobilisation 6600, donc qui était pour remplacer le terrain de Raymond Logistique par une grande forêt, en fait. C'est un peu ça l'idée. Un grand parc qui serait qui pourrait être utilisé de différentes manières. Puis je pense qu'il y a c'est une idée qui est intéressante. Ceci étant, je pense que beaucoup de gens s'en méfient, principalement parce que pour beaucoup, ça représente la possibilité de quadriller l'espace, puis d'en faire un espace très réglementé par l'État, alors que pour l'instant, c'est un espace qui est en libre usage, puis c'est un peu ça qui fait sa beauté et sa force. Donc, l'idée d'un parc nature, c'est sûr que c'est enchanteur que c'est de reboiser tout ça, mais c'est de tout le détruire, puis après le décontaminer, le quadriller, délimiter des espaces où on a le droit d'être, des horaires et tout, ça perd un peu de sa beauté, mais c'est ça reste à voir.
Donc, on voit quand même que quelque chose qui joue là, par rapport à la notion de valorisation des territoires. Ici, on comprend donc que l'idée d'un parc nature, par exemple, viendrait jouer beaucoup sur la valeur spéculative des terrains. dans un secteur où on a des populations assez vulnérables, là, qui est Mercier, Hochelaga, Maisonneuve à Montréal. Et on a des mêmes enjeux, des enjeux très similaires là, qui se jouent à Québec, dans le coin de Mézeray, donc un quartier très défavorisé, parmi les quartiers où les revenus sont les plus faibles au Québec. Et on voit finalement que c'est des projets qui tendent à écraser les populations locales au profit finalement d'industries, d'entreprises, d'un processus de gentrification, de transformation urbaine finalement qui vont finir par expulser des populations locales. Donc quand même beaucoup d'enjeux communs à ce niveau-là. C'est intéressant de vous entendre. Et je pense que ça va être encore plus intéressant de nous entendre sur les moyens d'organisation par la suite.
D'ailleurs, Simon, si je me trompe pas, dans les dernières semaines, il y a un nouveau groupe qui s'est fait connaître qui parle de revendiquer l'asile, A-S-I-L-E, contre l'asile, zone d'innovation du littoral Est. Je sais pas si tu pourrais nous en dire un peu. J'ai vu un document qui avait été publié à cet effet.
Oui, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui se trame à Québec où également, un peu dans l'idée où à Montréal, on a le groupe Mobilisation 6600 et le groupe Terrain Vague qui ont des revendications qui se rejoignent, mais qui à la fois sont différentes dans la philosophie, comme l'expliquait Simon. À Québec, l'idée de l'asile, c'est vraiment de tendre vers l'occupation d'un territoire, d'habiter le lieu, de créer une présence qui va finalement venir saboter et déranger ce projet qui est celui de l'asile, donc la zone d'innovation littorale Est. Et pour ce faire, ce qui était revendiqué dans le document dont tu parles, là, qui s'appelle « L'asile face à l'asile », c'était vraiment l'idée d'aller occuper les garages municipaux qui sont super symboliques et importants pour le projet de la zone d'innovation parce que la Ville de Québec prévoit en faire un incubateur d'entreprises de haute technologie. Donc, ça va vraiment être une espèce de pouponnière, finalement, pour des start-up qui vont venir faire du profit, évidemment, au détriment des écosystèmes et des populations locales. Et donc, l'idée de l'asile, c'est vraiment de prendre refuge, finalement, face à cette espèce de folie. Comme il était écrit dans le petit zine, là, la folie qui s'est emparée de la ville, en fait, et d'inviter l'ensemble des communautés locales à habiter ce lieu, à venir l'occuper, faire la fête, expérimenter d'autres formes de relations également, tant avec le territoire qu'avec les communautés locales. Donc, on va en reparler plus en détail là, au courant de la période de discussion sur les moyens d'action. Et on va peut-être profiter de ce moment pour... merci à tous pour le petit survol. C'est quand même un bon défi de faire cet exercice-là ensemble. On va revenir, on va prendre une courte pause musicale, puis on va revenir après pour continuer et réfléchir ensemble à des moyens d'action, puis peut-être même une mise en commun des outils là, pour éviter peut-être l'épuisement des groupes locaux et voir comment on pourrait mettre ensemble tout ça.
Bienvenue à nous la Terre. Vous êtes sur les ondes de CKIA. Il est présentement 16h28. Nous sommes avec plusieurs invités qui nous parlent d'une lettre ouverte qui a été co-signée, publiée dans la presse au mois de juin, qui s'oppose de diverses manières au projet d'infrastructure d'Avantage Saint-Laurent, le projet de stratégie maritime du gouvernement de François Legault. Comme on vous avait dit en première partie d'émission, pour la deuxième moitié, on aimerait parler avec vous des manières de lutter, des manières d'habiter les territoires en lutte et de comment les lier entre elles à l'échelle de la stratégie maritime parce que, bon, on sait, le gouvernement a un projet très large qui concerne plusieurs territoires et ce qui était exprimé dans la lettre, c'était le désir d'être capable de s'organiser nous aussi à cette échelle-là. Donc, on mentionne entre autres l'idée de formation de corridors de solidarité. De quoi est-ce qu'il s'agit, en fait? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Je vois que Simon a levé la main sur la conversation Zoom de l'émission. Donc, je lui cède la parole.
Là. Oui, peut-être... De ce que j'ai compris, en fait, là, des corridors de solidarité, parce que c'est une idée qui circule depuis peut-être un an environ, là, d'aussi loin que je me rappelle, qui est discuté dans différents groupes, là, justement, de défense de territoire. Puis l'idée, en fait, c'est que beaucoup se sont rendus compte que les gens qui œuvraient à la destruction des territoires pour l'économie, là, comme un peu c'est le cas le plus le plus grossier avec la stratégie maritime de Saint-Laurent, mais ces gens-là, ils étaient très bien organisés entre eux. Ils étaient coordonnés à large échelle. Et les gens qui, pour leur part, défendaient ces espaces-là, le petit boisé à côté de chez eux, leur terrain vague, le bout de fleuve devant chez eux, ben, nous, on n'était pas très bien organisés entre nous, on n'était pas si bien coordonnés. Il y avait comme des grandes instances écologistes qui étaient supposées nous représenter, mais finalement, dans des gens qui menaient concrètement les luttes sur le terrain, on n'était pas si bien représentés. Donc, cette idée-là, c'est de former des corridors de solidarité entre les différents points de lutte, puis de faire que les gens qui les défendent s'appuient les uns les autres, puis circulent entre ces espaces-là, se passent des idées, des trucs, des manières de faire, des astuces, puis et s'entraident, fassent circuler les lettres, les pétitions, les appels à l'action, se déplacent, se donnent des vives, des renforts. Donc, mais tout ça reste à faire, là, évidemment.
Merci beaucoup. C'est très, très intéressant comme initiative. Mais quand on parle de lier les luttes entre elles, qu'est-ce qu'on lie pour le moment? Qu'est-ce qui se passe sur les différents territoires? Puis je pense que c'est peut-être à partir d'une compréhension plus claire de ce qui se passe aux différents endroits qui se mobilisent qu'on pourrait réfléchir à comment lier les luttes entre elles, comment elles pourraient se supporter. Joris?
C'est pour lier, en fait. Moi, ce que je remarque, c'est que ce qui nous lie tous ensemble, c'est la stratégie maritime, mais on vit les mêmes enjeux locaux. Tu sais, tantôt, avant la pause, on parlait de création de valeur. C'est pour qui on crée la valeur ou pour qui... Fait que là, la valeur, elle, avec la stratégie maritime Saint-Laurent, elle est juste exportée, elle est juste enlevée, et puis elle détruit les territoires locaux, elle détruit les tissus sociaux et environnementaux locaux au profit de cette valeur-là. Fait que nous, comment réussir à comprendre qu'on vit la même chose dans nos territoires locaux? Ben, c'est ça. On a notre enjeu local, puis on est tous en train de vivre le même enjeu local à cause de la même stratégie globale. Fait que juste documenter le fait que chaque enjeu local s'inscrit dans la même stratégie, puis en parler comme on fait aujourd'hui, c'est déjà une manière juste stratégique de lier nos luttes, au moins dans le texte puis dans le discours. Tu sais.
C'est ça, partager une certaine forme d'intelligence et mettre en commun, disons, cette... parce que c'est vrai que c'est des gros enjeux, mais ensemble, on est capable de décortiquer ces aspects-là puis de s'organiser. Daniel?
Oui, ben c'est ça. Le fait qu'on se regroupe de plus en plus, qu'on fasse connaissance, qu'on partage l'information, ben ça permet une organisation qui est davantage provinciale et nationale là, qu'à l'échelle de chacun des communautés qu'on est. Alors, on est en train de faire une action politique actuellement avec le fédéral. Pour le municipal qui s'en vient dans quelques semaines, ben, on pourrait là, justement se faire un plan là, pour faire une action politique plus concertée à travers la ville de Montréal, à travers la ville de Québec, à travers d'autres villes aussi là, qui sont impactées par ces projets-là. Alors, on a la chance là, de se partager de l'information puis d'aller plus loin, justement. Puis la lettre d'opinion qu'on avait publiée était publiée dans la presse, fait qu'elle avait une large portée, puisque c'est toute la province, là, tous les lecteurs de la presse de la province qui ont pu en prendre connaissance. Donc, il faut poursuivre dans ce sens-là, puis justement, se faire peut-être un petit plan là, pour l'action politique au cours de la campagne politique, campagne électorale municipale qui s'en vient avec la ville de Montréal, Québec notamment, et toutes les autres villes là, comme en Montérégie, Contrecoeur, Boucherville peut-être. Là. Alors, c'est à voir, puis ça serait une belle opportunité de travailler encore ensemble. Là.
Tout à fait. Et il y a aussi à prendre en considération l'espèce de déséquilibre peut-être auquel faisait référence le Simon plus précédemment là, par rapport à la force, la puissance avec laquelle agissent les gens qui détruisent effectivement le fleuve Saint-Laurent et l'ensemble de ses communautés et le peu de ressources que nous avons pour nous organiser par rapport à tout ça. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir sur la stratégie, l'impact des actions, puis la stratégie, là, on pourra en reparler peut-être plus en détail. Marie-Hélène, est-ce que tu voulais continuer là-dessus?
Oui, ben j'ajouterais dans la lignée de ce qui a été dit. Il y a un an, on se connaissait pas. On s'est fait des rencontres, on s'est dans certains cas, on s'est visité. Je pense que ça va continuer. Fait que c'est aussi d'apprendre à voir comment chaque lutte articule ces enjeux, comment elle les nomme, puis de s'enrichir par rapport à ça. Je pense que l'aspect justice environnementale, l'aspect zone sacrifiée aussi, je pense, par exemple, Mézeray puis Schlager-Maisonneuve, là, il y a des liens là, très, très frappants, anciens quartiers industriels, population à faible revenu. Donc, tu sais, il y a ça aussi, montrer que c'est pas par hasard que ça arrive là. Il y a des raisons pour lesquelles ces projets aboutissent dans ces quartiers-là, parce que c'est des populations qu'on dit et qu'on espère sans voix, tu sais, qui ne prendront pas la parole. Alors, juste de commencer à nommer ces liens-là qui existent puis ces similarités-là, ben c'est aussi commencer à déconstruire, je pense, ce qui peut sembler comme des initiatives isolées, mais en fait, qui participent d'une même logique, là.
Oui, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de développer une sensibilité, de voir dans les choses qui se passent ailleurs, peut-être au-delà de l'effet médiatique que ça cause, peut-être d'être sensible au fait que, ah bon, ce que ces gens-là font, je trouve ça intéressant, est-ce que je pourrais aller à leur rencontre, comment je pourrais m'intéresser davantage que ce qui réussit à percer l'écran médiatique pour essayer de me mettre en lien avec eux, si je trouve ça intéressant, qu'est-ce que moi je pourrais leur apporter, puis comment est-ce qu'on peut partager sur les démarches qu'on entreprend de part et d'autre. Je pense qu'il y a quelque chose de super important là-dedans.
Tout à fait. Lauriane, Ah oui, vas-y, je réexcuse.
Non, puis c'est ça, puis l'idée de créer une solidarité entre les luttes, parce que, mettons, c'est pas parce qu'on veut pas le projet chez nous, on le veut pas non plus ailleurs. Puis là, je parle pour moi, je représente pas la mobilisation, mais souvent, on entend dire, ah, ben, à contre-cœur, il y a pas d'habitants, ça va pas les déranger là-bas. Puis là, Lauriane sera vraiment plus à même de nous parler de la réalité de contre-cœur. Il y a peut-être moins d'habitants qu'à Montréal, mais il y a toute une richesse de la terre et du vivant là-bas qui est importante à préserver au moins autant que nos quartiers à Montréal. Fait que Lauriane, je te laisse enchaîner là-dessus.
Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, il me vient juste en tête l'idée que le plus grand enjeu, qui est médiatisé pour le port de contre-cœur, c'est le fait que le chevalier cuivré est menacé. Puis, ben, c'est le seul vertébré 100% québécois qui nous reste dans notre faune aquatique. Donc, juste ça, c'est un des éléments qui démontre à quel point le fleuve, c'est un ensemble qu'on partage tous, puis dont l'équilibre, dont on dépend tous de cet équilibre-là. Donc, c'est pas juste les habitants de contre-cœur qui vont vivre les répercussions de ces enjeux-là, mais c'est l'ensemble du Québec, tous les habitants du fleuve, en fait. Puis, j'ajouterais aussi par rapport au corridor de solidarité que, justement, pour un groupe comme nous qui avons eu quand même assez de difficultés à mobiliser, qui en ont encore, en fait, ça n'a pas été facile. On est resté un petit groupe la majorité du temps. Puis là, de justement joindre un projet plus grand, un projet commun, peut peut-être nous aider, justement, à se motiver, à savoir qu'on a un réseau d'alliés, puis à trouver un sens aussi à tout ça quand ça devient un peu plus décourageant avec un manque de mobilisation.
De sentir qu'on n'est pas seul, en effet. Puis peut-être que ce serait intéressant d'organiser des rencontres justement sur les différents territoires, tous ensemble, même si ça a déjà été fait, effectivement, mais de reproduire la chose, peut-être même à contre-cœur, pour dire, ben, y a du monde mobilisé tout le long du Saint-Laurent pour protéger contre ces invasions-là, finalement. J'aimerais peut-être qu'on entre dans une discussion sur la question des moyens d'action, notamment parce que effectivement on joue contre à armes inégales, si on peut dire, dans le sens où on fait pas le poids par rapport à la puissance qui est devant nous. Et ce qu'on voit souvent, c'est que on ignore les groupes citoyens, on attend qu'ils s'essoufflent. Il y a évidemment tout le jeu politique qui embarque là-dedans. Mais ce qu'on voit, c'est que l'objectif, c'est vraiment de faire rouler la machine économique au détriment de tout le reste. Et tant pis pour les communautés qu'on écrase au passage. Et donc, comment déranger, comment venir vraiment être présent, je lance la question là, pour qu'on en parle tous ensemble, mais comment avoir vraiment des actions, disons, stratégiques pour ne pas s'épuiser et pour pouvoir, disons, continuer ces luttes-là localement, à la fois localement, mais à la fois largement, si on peut dire. C'est peut-être une grosse question, mais Joris, vas-y.
Ouais, bon. mais tu sais, je pense que faut utiliser à peu près toutes les stratégies qui sont à notre portée là. Puis oui, il y a toutes les stratégies politiques d'élection, puis de consultation publique auxquelles des fois Il y a une structure vraiment qui prend beaucoup d'énergie, mais sur, il y a aussi habiter le territoire. Tu sais, le territoire, ben, pourquoi on le défend? Parce qu'on en a besoin, parce qu'on l'aime, parce qu'on le vit. Puis ça, ça peut se faire de manière très simple. Pour moi, promener son chien sur la friche ferroviaire à Montréal est un moyen de lutte parce que on est juste en train de revendiquer le territoire juste en l'utilisant. Donc, c'est comment réussir à pérenniser cette utilisation-là et comment cette utilisation-là, ben, là, à partir du moment où il y a des humains qui utilisent, il y aura moins il y aura moins les machineries. Réussir à repousser les machineries par notre utilisation du territoire. Puis ça, on peut s'entraider entre luttes aussi, s'inviter justement, comme tu mentionnais, entre territoires, puis s'organiser pour faire des événements festifs, politiques sur ces territoires-là.
C'est super intéressant, puis c'est aussi les gens qui font usage au quotidien de ces territoires-là qui sont les plus à même de constater les modifications au jour le jour, parce que ces choses-là sont pas annoncées, évidemment, publiquement. Les travaux se font souvent dans le secret, on a de la misère à savoir pourquoi une entreprise fait telle ou telle chose, mais les gens qui sont là dans une optique un peu contemplative, comme quand on va promener un chien, ben, ils ont le temps de voir ce qui se joue en fait sur ces espaces-là. Donc c'est super important de lier l'usage à la mobilisation parce que c'est comme ça qu'on reste vraiment au courant, puis c'est comme ça qu'on s'attache aussi aux endroits qu'on veut défendre.
Daniel?
Oui, il y avait déjà un policier municipal qui m'avait aussi dit, ben, associez-vous à Greenpeace. On était justement dans la lutte contre l'agrandissement portuaire. Puis il disait, Greenpeace, ben, ont des actions spectaculaires, ont des actions intéressantes, ils ont toujours une grande visibilité parce que dans leurs actions sont originales. Évidemment, ils ont des grands moyens aussi, mais il faudrait aussi peut-être essayer de faire une réflexion pour aller vers des moyens un peu spectaculaires à l'image de Greenpeace, essayer de voir un peu l'historique des activités que Greenpeace ont faites là en termes de moyens, et s'en inspirer et en faire encore là des actions spéciales, spectaculaires, qui amèneraient une bonne couverture médiatique, puis en même temps faire le message pour justement l'ensemble de la province, l'ensemble du projet Avantage Saint-Laurent, pour dénoncer ça puis dire, ben justement, on devrait revenir vers la nature. L'ONU est en train, justement, vient de publier un document de travail là, pour les États qui vont avoir à discuter de ça sur le rétablissement de la biodiversité, parce qu'on l'a détruit beaucoup, beaucoup au cours du dernier siècle, les dernières décennies. Alors, il y a un retour vers la nature à faire, puis on pourrait s'en inspirer, justement, et l'ONU est peut-être aussi une source d'inspiration par les documents qu'ils produisent. Évidemment, c'est les scientifiques de l'ONU. Alors, on réfléchit à ça, là. C'est la porte est ouverte, là. Puis il faut justement partager un peu toute l'information qu'on a là-dessus, puis essayer de voir comment, avec les actions spectaculaires de Greenpeace, on pourrait faire du millage tous ensemble le long du Saint-Laurent.
En complémentarité, peut-être des actions spectaculaires de Greenpeace, il pourrait aussi avoir les actions, les occupations ordinaires des citoyens de tous les jours, du quotidien.
Marie-Hélène, tu voulais continuer?
Oui, ben, je pense qu'il y a un travail aussi de déconstruction par rapport à comment on voit un territoire habituellement. Tu sais, on passe à côté, ben, le cas du garage municipal à Québec, tu sais, on passe à côté, c'est un truc de la ville, ça ne nous regarde pas. Tu sais. Mm-hmm. Et dans des marches qu'on a faites, des marches citoyennes qu'on a faites avec différentes personnes, on leur ramène à dire, regardez le bâtiment, regardez à quoi il pourrait servir. Regarder où il est situé. Donc, tu sais, de déconstruire, parce que des fois, on a des réflexes quand on se promène dans un quartier qu'on connaît bien, puis il y a des choses qu'on ne voit plus, puis il y a des choses qu'il faut vraiment commencer à voir autrement avec d'autres perspectives. Fait que c'est pour ça que je parle aussi de déconstruction d'un regard habituel qui, des fois, est un peu trop encastré dans une routine. Tu sais, ça ne nous regarde pas, c'est pas à nous, etc. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. Mais c'est une affaire parmi plein d'autres qu'il faut qu'il soit faite.
Donc, ouvrir un imaginaire des possibles, puis peut-être expérimenter d'autres formes d'usage sur un lieu auquel on ne serait pas habitué de... ouais. Simon?
Oui, par rapport à la... Moi, j'ai l'impression un exemple par rapport aux moyens qui peuvent être utilisées. Tu sais, c'est ce qui s'est passé l'an passé avec les Wet'suwet'en, là, qui l'hiver passé, là, qui finalement ont lancé un appel de solidarité à l'action. Puis partout, il y a eu des blocages ferroviaires et tout. Puis il y a eu des réponses un peu sur tous les territoires en solidarité avec ce qui se passait là-bas. Puis ça, je pense que c'est une manière très intéressante de penser ça. Puis c'est un peu ça, j'ai l'impression, les corridors de solidarité dont on pensait plus loin, plus tôt. Sinon, d'autre part, ce que Marie-Hélène dit sur la déconstruction, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important. Puis ça c'est souvent lié à des moyens d'action aussi pour se faire entendre, puis que ce discours-là soit porté. Nous, récemment, là, au Terrain Vague à Hochelaga, il y a deux camions là, de la compagnie qui ont été incendiés dans la nuit. Des gens qui ont revendiqué cette action-là pour un peu saboter ce projet-là. Donc, c'est sûr que ça a fait parler beaucoup là, dans les médias et tout, puis on s'est fait entendre. Puis je pense que ça, c'est une des manières que les gens utilisent pour comme moyen de pression, comme on dit. Ceci étant, il y a quelque chose qui pour moi, manque un peu dans la manière dont nous, on a mené notre lutte jusqu'à maintenant, puis beaucoup aussi des luttes que j'ai pu connaître ailleurs aussi, qui c'est de remplir ces espaces-là de nos vies un peu, de nos usages. Donc nous, on l'a dit, il y a un usage quotidien qui est fait, mais on a eu peu construit d'infrastructures remplies ces espaces-là de manière de pouvoir l'habiter un peu plus que juste ponctuellement. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui peut nous faire sortir de la revendication, puis de dire que cet espace-là, on serait légitime de l'avoir et tout, de le faire abstraitement. Puis c'est ce qui manque, c'est de le faire concrètement, puis d'aller sur le terrain, de s'y installer, puis d'à partir de là le défendre plutôt que de le défendre de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui sort un peu de la question des moyens de pression, même si ça peut être pensé comme un moyen de pression, mais qui est aussi en fait de remplir ces espaces-là, d'identifier notre expérience.
C'est super intéressant. Puis par rapport à ces usages-là à inventer, j'aimerais relancer Lauriane qui, dans une rencontre préparatoire, nous a dit que l'espace où le port de Montréal devait s'établir à contre-cœur était un espace magnifique, puis que les groupes de citoyens, justement, se disaient que ça serait donc bien intéressant d'avoir cet espace-là pour faire autre chose. Est-ce que vous avez des idées des autres usages qui pourraient s'établir à cet endroit-là? Puis est-ce que tu penses que ça serait possible de les mettre... de les mettre en œuvre, peut-être pas à l'ampleur que les institutions sont capables de leur donner, mais plutôt à une échelle de petits groupes qui s'organisent pour protéger un espace.
Oui, ben en fait, c'est ça. On est un petit groupe déjà à la base de mobilisation. Donc, parmi nos quelques rencontres qu'on a eues, on s'est prêté à imaginer que ça pouvait être, parce que c'est des terres agricoles, en fait. C'est des anciennes terres agricoles pour certaines. D'autres étaient en usage il y a quelques années déjà. Puis, avec des vieux arbres, c'est super beau. C'est au bord du fleuve. Mais après, ce qu'on peut faire concrètement avec cet espace-là, c'est un autre projet qu'on aurait aimé pousser, qu'on aurait aimé avoir le temps d'imaginer. Puis, c'est sûr que ce serait intéressant en tant que population locale de se poser la question puis d'imaginer autre chose. On est un peu pris sous l'emprise du fait que ça appartient depuis longtemps à l'administration portuaire qui est à nos yeux inatteignable et indestructible. Donc, mais c'est une belle piste de réflexion, j'imagine, pour les gens de la place, là.
Puis je pense que l'attachement au lieu, la présence est tellement importante. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il y a des exemples également très inspirants du côté de l'Europe et de la France, notamment avec, par exemple, les ZAD, les zones à défendre. Finalement, tu as des cas où il y a des projets monstres, comme l'implantation d'un aéroport qui se fait, comme à Notre-Dame-des-Landes. Ou peut-être qu'en tant que citoyen, on se voit absolument dépassé par l'ampleur d'un tel projet, mais finalement, en allant occuper le territoire, en empêchant les machines de venir construire l'aéroport, on réussit à empêcher le projet. Et au-delà de ça, on réussit à habiter un territoire différemment. Il y a même une école qui a été érigée par les gens qui occupaient le territoire, qui s'appelle l'École des Tritons, finalement, qui est un lieu d'apprentissage où on apprend à interagir avec le territoire, les espèces qui l'habitent. Et donc, il y a finalement d'autres formes de vie qui s'expérimentent. Et donc, on voit qu'avec finalement des très petits groupes, on est capable de bloquer des projets qui sont vraiment d'envergure. Mais finalement, ce qui est l'ingrédient un peu commun de ces réussites-là, c'est souvent la présence. Et la, parce qu'on peut, puis on peut faire un exercice, un, disons, un peu théorique, mais se dire, bon, ben, une fois que là, les pétitions ont été lancées, tout le monde les a signées, l'ensemble des partis politiques les ont vus, on a rencontré tout le monde, il y a eu une élection, bon, Raymond Logistique arrive le demain, puis avec leur machine, puis ils annoncent qu'ils rasent le boisé. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On est pris devant les faits accomplis. On a fait le tour de tout le monde nous a entendu, mais finalement, le projet va de l'avant. Est-ce qu'on ose aller empêcher ce projet-là ou est-ce qu'on le laisse aller? Il y a cette question-là qui doit être posée parce que les projets n'ont pas l'intention de s'arrêter, ça. Ça, c'est clair. C'est une question ouverte.
Non, mais c'est sûr que tu sais, c'est vraiment une question de gradation des moyens. Tu sais, à partir de quand les moyens plus directs sont valides? Est-ce que faut en faire une, deux, trois pétitions? Nous, ça fait 5 ans, comme je dis, que la lutte a commencé, que la mobilisation a commencé. Moi, j'appelle ça la lutte. Ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Je suis pas un représentant de la mobilisation 6600, mais c'est mon point de vue. Puis, il y a cette gradation des moyens d'action, je pense qu'elle arrive à partir du moment où tu as déjà tout fait. Tu sais, nous, on est rendu à 2 consultations publiques. Y a la pétition pour demander une consultation publique. On vient de déposer une pétition de 8000, plus de 8000 signatures à l'Assemblée nationale du Québec. Y a le NPD qui se lance une pétition contre Raymond Logistique. Donc là, on est rendu à 3 pétitions sur le même sujet. On est rendu à 2 consultations publiques. Tous les élus du fédéraux sont contre. Les élus municipaux sont contre. Mais il y a quand même le droit affecté. C'est comme, est-ce qu'on serait légitime? C'est comment rendre légitime notre action directe? Ben, c'est réussir à montrer ben, que c'est vraiment injuste et même dans leur système démocratique. Elle n'est pas du tout respectée, la démocratie. Ça ne respecte aucun besoin. Les citoyens et les citoyennes ne le veulent pas. Les élus n'en veulent pas. Il y a juste une entreprise privée qui a le droit de s'accaparer le terrain puis d'en faire ce qu'elle veut dans une logique poussée par la CAQ. Là. On ne va pas se mentir là, avec la stratégie maritime du Saint-Laurent. Fait que c'est ça qui est choquant et qui, je pense, va mener à une escalade des moyens de pression puis aussi une consolidation des réseaux de lutte.
Tout à fait. On voit qu'il y a de plus en plus de sympathisants également à ces luttes-là, de plus en plus de gens sensibles à la préservation des êtres vivants qui sont menacés par ces projets-là. Simon, peut-être une dernière intervention avant de conclure l'émission. Cette belle
rencontre. Oui, ben oui, moi, c'était par rapport à la question des concertations, des revendications et tout ça. Moi, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Si tu veux être sûr de perdre un jeu, il faut que tu joues avec ceux qui ont inventé les règles. » Puis j'ai l'impression que des fois, c'est ça un peu qu'on fait, qu'on se ramasse à faire dans tout ce qui est dans une logique d'aller dans des espaces de concertation ou d'essayer de revendiquer, de se faire entendre. Puis pour moi, le caractère de ces luttes autonomes là, qu'on mène pour défendre des espaces, c'est qu'il va falloir trouver nos propres règles, trouver nos propres tempos, se baser sur nous-mêmes, en fait, puis compter que sur nous-mêmes pour défendre ces espaces-là, parce que tant qu'on va essayer de jouer avec les gens qui organisent la destruction de ces espaces-là, à mon avis, c'est sûr qu'on va perdre. Là. Donc,
Et je pense effectivement que ça fait vraiment une belle conclusion pour cet échange qui a passé très rapidement. Ben merci à tous et à toutes d'avoir pris part à l'exercice. Et c'est certainement en fait une partie remise dans le sens où on continue de créer du lien. On voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'organise, un réseau de résistance. Donc, vous en êtes la démonstration et c'est super intéressant. Et donc, par quel moyen est-ce qu'on peut rapidement là, vous rejoindre? Est-ce que vous avez des sites web à nous partager, des pages Facebook? On peut faire un petit tour de table.
Donc, je me lance, Joris. Mobilisation 6600, on a une page Facebook, une page Instagram et on organise une grande manifestation samedi 18 septembre à 13h dans Schlegamaisonneuve. Puis toute l'info est sur la page Facebook de Mobilisation 6600, Parc Nature MHM.
De notre côté, on a une page Facebook pour un littoral citoyen. Il y a aussi le groupe Table citoyenne Littoral Est. On a un site Internet. Et c'est ça, on a différentes activités à venir à l'automne.
Nous, pour Access à Laurent Beauport, on se regroupe beaucoup autour de la table citoyenne. Alors, toute la mobilisation se fait autour de la page Facebook et le site web. On a des documents d'information sur www.accèsaufleuve.org aussi. Puis, évidemment, l'événement sur le climat qui va avoir lieu le 24 septembre, c'est national. Là, donc, ça a lieu à Montréal, ça a lieu à Québec, ça a lieu dans d'autres villes. Évidemment, on va être là justement pour porter notre voix là, sur la sauvegarde du fleuve et protection du climat également.
Merci. On a également une page Facebook pour le terrain vague n'est à personne. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça le nom de la page Facebook. Il y a également une page Facebook intitulée « L'asile contre l'asile ». Et donc, on invite les gens quand même à rester à l'affût parce qu'on appelle quand même à une escalade des moyens de pression si effectivement ces projets-là sont appelés à continuer à aller de l'avant. Et donc, merci grandement pour cet exercice. TP, tu veux dire un petit mot de la fin?
Merci d'avoir été sur les ondes de Sequoia pour À nous la Terre. Vous pouvez être sûr que vous aurez des nouvelles des luttes desquelles on a parlé aujourd'hui plus tard dans la saison au fil de leur développement. Et on se dit à la semaine prochaine.
De Tokyo à New York.